quand on parle de Dieu, on touche à un sujet délicat. Vous êtes d'accord avec ça? Aïe, aïe, aïe. En France, chacun doit vivre sa conviction de manière privée. C'est ça, hein? Quand on parle de Dieu, on est sur un terrain difficile. Et pourtant, il y a en tous une soif de mieux le connaître. Vous avez certainement vécu ça quand vous parlez avec quelqu'un, commencez à dire Dieu et ça bondit. Waouh! Hein, les personnes n'ont surtout pas envie d'entendre parler de Dieu, encore moins de Jésus. Il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'autres qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. D'autres encore qui pensent qu'on a tous le même Dieu. On ira tous au paradis, n'est-ce pas? Et puis, il y a pas mal d'expressions que presque tout le monde utilise, que ce soit ceux qui croient en Dieu ou les athées. On entend le bon Dieu, expression familière et affective, n'est-ce pas? Prier le bon Dieu, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. On entend aussi cette affirmation, Dieu sait. Dieu sait si j'avais pris des précautions. Dieu seul le sait. On entend aussi à la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, Dieu vous entende. Nom de Dieu, bon Dieu. Bon là, c'est plutôt grossier, hein. Quand on parle de Dieu, on est sur un terrain difficile. Pourtant, il est sur les lèvres de plusieurs, voire presque de tout le monde. Et pourtant, comme je l'ai dit avant, il y a en tous une soif de mieux le connaître. Ce matin, nous allons parler de Dieu, encore une fois, puisque nous sommes dans une série où la dernière fois, nous avions parlé de Dieu. Ensuite, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons répondre à cette question. Trinité, comment en parler aux autres? Bonne question. Comment parlons-nous de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit? Sommes-nous au clair sur ce sujet? Vous êtes trop fort, normalement, hein, si on vous posait la question. Quand on nous pose la question, que disons-nous? Trois en un, comme l'a si bien dit Saïd Oujibou dans un spectacle. Vous avez pris Dieu pour un shampoing? Je vous propose quatre réponses. Dieu nous dépasse. Dieu est un. Le Père, le Fils, l'Esprit sont appelés Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont distincts. Premièrement, Dieu nous dépasse. La première chose à dire, c'est que Dieu nous dépasse. Supposez que je vous prête un roman policier et que je vous dise que c'est de loin la meilleure histoire que j'ai eue. Et que j'aime particulièrement le suspense de la fin qui nous tient en haleine. Vous prenez le livre chez vous et vous le lisez, puis découvrez soudain que les deux dernières pages ont été arrachées. Aïe, aïe, aïe. Cela vous rendrait fou, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez quoi? Cela fait partie de notre nature. Nous ne supportons pas les mystères non résolus. Nous voulons connaître la fin de l'histoire. Nous voulons comprendre, tout comprendre. Et même quand les gens ne comprennent pas tout, ils ont envie de quand même trouver une petite solution, un petit truc. Hein, je parle à quelqu'un qui est vraiment athée. Non, je crois pas en Dieu. Non, non, non. Mais après la mort, comment tu fais? Comment tu fais? Ben, après la mort, ce sera la grande sieste, quoi. Hein. Le repos éternel. Je fais, tu crois pas en Dieu, mais tu crois en ça. Il y a toujours quelque chose sur lequel on veut se reposer. Et d'une certaine manière, on veut tout comprendre, tout saisir. Et j'ai une révélation à vous faire. Vous ne pourrez jamais totalement tout comprendre sur Dieu. Pour cela, vous devriez être aussi grand que lui. Oui, oui, oui. Et nous savons tous combien c'est impossible. Une des vérités concernant Dieu qui illustre le plus notre incapacité à ne pas totalement le comprendre, c'est celle de la Trinité. Dieu est trois en un. le Père, le Fils, l'Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux, ni d'un dieu agissant de trois façons différentes. La Bible nous dit que Dieu est composé de trois personnes distinctes et différentes. Et que ces trois personnes distinctes et différentes sont une même personne, Dieu. N'êtes-vous pas d'avis que la Trinité, c'est un peu compliqué ? Tout comme le concept de l'infini, nous savons qu'il existe, mais il dépasse notre entendement. Dieu nous dépasse, tout commence là. Nous devons accepter que le Dieu créateur du ciel et de la terre nous dépasse. La première chose à comprendre quand on parle de Dieu, et quand on vient à Dieu, c'est qu'il nous dépasse. En fait, nous ne pourrons jamais imaginer quelqu'un qui nous dépasse autant que Dieu. Dieu nous dépasse par sa connaissance, par son intelligence, par sa grandeur, sa dimension, son amour, par sa pureté, par son être, par ses pensées, par sa bienveillance. Clairement, totalement, sans aucun doute possible, nous sommes dépassés par ce qu'il est et qui il est. Et ce serait une illusion de croire que nous comprendrions mieux que... Enfin, que nous pourrions tout comprendre par notre intelligence. Même les plus grands théologiens, évangélistes, pasteurs et les chrétiens les plus matures dans la foi arrivent à cette conclusion, Dieu nous dépasse. Le pasteur évangéliste Billy Graham a dit quelque chose qui reflète bien ce que plusieurs dans la foi affirment. Voici ce qu'il dit. Lorsque j'ai commencé à étudier la Bible il y a des années, la doctrine de la Trinité était l'un des problèmes les plus complexes que j'ai rencontrés. Je ne l'ai jamais complètement résolu, car il contient toujours une part de mystère. Même si aujourd'hui je ne le comprends pas encore totalement, je l'accepte comme une révélation de Dieu. J'avais parlé à quelqu'un que vous connaissez vraiment bien, Jean-Claude Chong. Je parle avec lui, et puis on parle de la Trinité ensemble, et puis lui me dit, arrive un moment, Manu, quand on parle de Trinité, on arrive juste à cette conclusion qui, à moi, il faut tout simplement croire, mettre sa foi dans ce Dieu qui nous dépasse. Donc, déstressons-nous. Quand nous parlons de Dieu aux autres, nous devons commencer par dire qu'il nous dépasse, que nous ne pouvons pas tout comprendre de lui, ni tout expliquer. Tout commence là. Voilà pourquoi nous devons accepter avec foi ce Dieu qui s'est révélé à nous, tel qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous raconte une histoire d'une personne qui parle avec Dieu. Écoutez-les maintenant. Salut.
Salut.
Qui tu es, toi ? Celui sans qui tu n'existerais pas. Pardon ? Celui sans qui tu n'existerais pas. C'est-à-dire,
devine,
tu n'es pas Dieu quand même.
Eh bien, si.
Ça ne pouvait pas mieux tomber, j'avais plein de questions pour toi.
Moi aussi.
Je peux commencer ? D'accord. Voici donc ma première question. Qu'est-ce que cela signifie être Dieu ? Être Dieu, cela signifie que je contiens en moi-même une puissance d'existence qui ne dépend de rien d'autre que de moi-même pour exister. J'existe de toute éternité, sans devoir mon existence à qui que ce soit. Tu comprends ?
Non.
C'est bon signe. Pourquoi ? Parce que la première chose que tu dois comprendre quand tu parles de moi, c'est que tu ne te situes pas. Tu te situes sur un terrain qui te dépasse totalement. Fin de l'histoire. Dieu nous dépasse. Deuxièmement, Dieu est un. Un seul Dieu et le seul Dieu. Voici ce que la Bible dit, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, le seul Éternel. Ésaïe 46, verset 9, « En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. » Il n'y a pas deux ou trois ou cinq dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cet enseignement est au cœur de ce que Dieu a révélé à son sujet dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il nous le montre même davantage. Quand nous parlons de Dieu aux autres, nous devons ensuite dire que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Facile pour l'instant, n'est-ce pas? Mais ensuite, ça se complique. 3. Le Père, le Fils, l'Esprit sont appelés Dieu. Le Père est Dieu. Romains chapitre 1, verset 7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car c'est en lui, en Jésus, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude qui est en Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, l'empreinte, sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Et troisièmement, l'Esprit est Dieu. Jean chapitre 14, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Acte chapitre 5, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Et plus loin, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parfois, nous faisons l'erreur de parler du Saint-Esprit comme s'il s'agissait d'une force. Hein. L'Esprit de Dieu est une personne tout autant que le Père et le Fils. Ceci est clairement exprimé par les paroles de Jésus sur le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est mise à égalité avec Dieu tout au long de la Bible. Acte chapitre 5, comme nous l'avons lu, Pierre dit qu'Ananias a menti au Saint-Esprit. Et un peu plus loin, il dit que ce mensonge était contre Dieu. Il parle de Dieu ici et du Saint-Esprit comme étant la même personne. Je n'en dis pas plus sur la personne du Saint-Esprit car nous aurons très bientôt un message sur le Saint-Esprit à la Pentecôte. Quatrièmement, le Père, le Fils et l'Esprit sont distincts. Jésus n'est pas le Père. Il a prié le Père dans Jean 17. Si Jésus avait simplement été Dieu, le Père, apparaissant comme le Fils, pouf, sur la terre, pendant un temps, chaque fois qu'il aurait prié, il se serait prié lui-même, n'est-ce pas? Mais il apparaît clairement que pendant que Jésus était sur terre, il était en étroite relation avec un Père dans le ciel, distinct de lui-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait plus de 200 fois référence à son Père comme étant quelqu'un distinct de lui-même. Le Père a envoyé le Père aime le Fils, et le Père connaît le Fils connaît le Père. Ils sont clairement différents l'un de l'autre. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Ici, l'Esprit est envoyé par le Père. Donc, la Bible en parle comme étant aussi, lui étant distinct. Enfin, les deux en tout cas distincts l'un de l'autre. Autre chose, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. On a lu dans le texte dans Jean 14, Jésus n'aurait pas appelé l'Esprit un autre consolateur qu'il enverrait. Il n'était pas distinct l'un de l'autre. À maintes reprises, la Bible parle d'une manière qui nous montre que le Père, le Fils, l'Esprit sont distincts les uns des autres. Ce qui les distingue, c'est leur relation. Voici un schéma qui aide un peu à comprendre ce que je viens de dire. On l'a vu il y a quelques dimanches, c'est juste que ce n'était pas en français. J'embête un peu mon cher Paul. Le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père ni le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Mais ils sont tous entièrement Dieu, trois en un. Voilà un schéma qui nous aide un peu à comprendre, même si ça reste difficile et complexe. Mais attention à une chose, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire que par moment le Père prend, pour ainsi dire, le rôle du Fils, ou qui se révèle parfois sous la forme de l'Esprit. Vous voyez, comme quelqu'un qui prend une casquette, puis après il prend l'autre, après il prend l'autre. On est trois. Ah, je suis Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis Jésus. Oh, aujourd'hui, je suis Père. Non. Ce n'est pas une personne qui se montre de trois façons différentes ou qui prend différents rôles à différents moments. Dieu est composé de trois personnes distinctes en un être personnel unique. C'est difficile à comprendre, à tout comprendre, et c'est normal. Une autre histoire que j'aime beaucoup. Une personne essaye d'expliquer ce qu'est la Trinité et écoutez ce dialogue. Le Dieu des chrétiens présente une particularité. Il est un Dieu en trois personnes. On parle de Trinité. Super, ça, je connais. Ah bon? Alors là, tu m'impressionnes. Oui, c'est tout simple. C'est comme un triangle. Tu vois, il y a une seule forme, mais trois côtés. C'est la Trinité. Ah oui, ça a l'air facile, sauf que Dieu n'existe pas trois fois. Donc, ton triangle, si tu voulais être juste, ce ne serait plus qu'un seul trait. Et du coup, ce n'est plus un triangle. Non, elle n'est pas bonne, ton image. Bon, alors, si tu veux, c'est comme un arbre. D'accord ? Il y a les racines, il y a le tronc et les branches. Mais c'est un seul arbre. Ouais, sauf que les racines, ce n'est pas l'arbre tout entier. Alors que dans la Trinité, les trois sont entièrement et absolument Dieu en eux tout seuls. Aucune des trois personnes n'a quelque chose que les autres n'ont pas. Rien ne les distingue des autres, en fait. Ok, facile. Dieu est comme le soleil. Il y a un soleil, des rayons et de la chaleur. Tu comprends?
Ouais.
Mais ce n'est pas satisfaisant, ton truc. On ne peut pas découper Dieu comme ça. On ne peut pas le dissocier. Il est un seul être, impossible à diviser. Ah, mais tu m'énerves à la fin. Alors, vas-y, pour toi, la Trinité, c'est comme quoi? Ben, facile, c'est comme rien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? C'est comme rien. La Trinité, c'est comme rien d'autre. C'est unique, comme Dieu. Fin de citation. Quand nous parlons de Dieu aux autres, quand nous expliquons ce qu'est la Trinité, nous devons faire attention de ne pas donner des images qui pourraient déformer en fait qui est vraiment Dieu. Disons comme nous l'avons vu avant, que Dieu nous dépasse. Disons aussi que le fait que Dieu soit trois en un nous dépasse, nous aussi. Et que ce n'est pas facile à expliquer. Ensuite, nous pouvons dire que Dieu est un seul Dieu, il est le seul Dieu, mais que dans la personne de Dieu, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont distincts, mais c'est un seul Dieu. En Dieu, il y a relation où chacun a son rôle. Osons dire aux gens que trois personnes, mais un seul Dieu, peut paraître contradictoire, c'est vrai, pour notre compréhension. Mais dans la dimension de Dieu, cela est normal, n'est pas contradictoire, mais ça nous dépasse. C'est un mystère, n'est-ce pas? Un merveilleux mystère. Voilà, j'ai essayé de répondre à la question pour être le plus simple possible, mais comme d'habitude, les gens autour de nous ne vont pas venir à Dieu parce qu'on va tout leur expliquer. Et parce qu'ils ont
au fond d'eux une soif. Et nous devons surtout prier pour eux. Prier pour que Dieu se révèle à eux. Et les mettre au défi. Tu veux connaître Dieu, adresse-toi à lui. Il se révélera à toi.
Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin, laisser cette question et ces réponses de côté, pour aller sur des questions qui me paraissent importantes pour nous qui appartenons à Dieu. Une bonne question à se poser, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce important de comprendre ce qu'est la Trinité? Une bonne question. À quoi ça sert? Pourquoi Dieu a-t-il voulu se révéler ainsi? On pourrait dire très vite, parce qu'il veut réellement que nous le connaissions, que nous connaissions les profondeurs de sa personne. Mais j'aimerais vous donner d'autres éléments qui sont importants, vraiment surprenants peut-être pour vous ce matin. Comprendre la Trinité est important parce que sans la Trinité, pas de Dieu d'amour. Il n'y a pas de Dieu d'amour s'il n'y a pas de Trinité. Si Dieu n'était pas trinitaire, il pourrait être beaucoup de choses, mais pas un Dieu d'amour. Un Dieu unique et seul, peut-être tout-puissant, autoritaire, juge, parfois compatissant peut-être, mais pas amour. Impossible, impossible, car pour qu'il y ait amour, il faut une relation. Pour qu'il y ait amour, il faut un je qui parle à un tu. Certains pourraient objecter ce que je dis en disant, mais non, Dieu est amour, il n'a pas besoin d'être de relation, il s'aime lui-même. Mais dire cela, c'est dire que Dieu est tout simplement quelqu'un qui s'aime lui-même, c'est du narcissisme. N'aimer que soi, ne penser qu'à soi, tout faire uniquement pour soi. C'est bien loin, quand on dit cela, c'est bien loin du Dieu de la Bible. Si Dieu n'était pas trinitaire, il aurait été obligé de créer pour aimer quelqu'un d'autre que lui. Dieu être obligé, c'est pas possible, c'est impossible que Dieu puisse être obligé. C'est un paradoxe absolu puisque le propre de Dieu, c'est de n'être obligé par rien d'autre que par lui et d'être libre. Donc, si la Trinité n'existait pas, soit Dieu ne serait pas Dieu, soit il ne pourrait pas être amour. Mais Dieu est amour, et cet amour existe et se vit de toute éternité. Nous devons comprendre cela. Donc, finalement, ce qui est un mystère difficile à comprendre est aussi, d'une certaine manière, cohérent et même nécessaire. Dieu est amour avant même la création. Il aime et il fait circuler l'amour au sein de son être, avant de créer quoi que ce soit. Ainsi, il est libre, libre de créer, libre d'aimer ce qu'il crée, libre d'être aimé ou pas par ce qu'il crée. Et donc, la Bible parle, par exemple, que Dieu est heureux en lui-même, mais heureux parce qu'en lui, il y a relation. Autre point, sans Trinité, pas de vie en Dieu. Si Dieu n'était pas Trinité, il aurait été seul. En l'entendant dire à propos de l'être humain, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 2, ça ferait bizarre, venant de Dieu. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. On peut difficilement imaginer que lui-même l'ait été de toute éternité. Mais dans le même livre de la Genèse, dans chapitre 1, faisons, il ne dit pas je vais faire. Non, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle répétition qui montre que là, il y a Trinité. Dieu est Trinité. Il ne s'est pas ennuyé de toute éternité. Il y a un seul Dieu, mais il n'a jamais été seul. Et c'est parce qu'il est Trinité que nous pouvons intellectuellement valider l'affirmation de l'apôtre Paul qui a écrit ceci. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans Trinité, pas de mouvement, pas d'être, pas de vie. Dieu se présente ici comme le Dieu vivant, un Dieu au sein duquel la joie circule, la paix se donne, la plénitude se vit, la bonté se partage. Bref, un amour créatif, créateur, vivant en lui-même, avec tout ce que la beauté de la vie contient. J'espère que pendant que je parle, vous êtes en louange là, et dans l'adoration de ce Dieu qui nous dépasse. Autre point, sans Trinité, pas de communion. Si Dieu n'était pas trinitaire, il n'y aurait aucune vie en lui, aucun mouvement, aucune relation non plus, aucune communion. Toutes ces vérités sont concevables uniquement parce que la Trinité existe.
Sans la Trinité, pas de communion en Dieu, pas de vie, ni en lui, ni pour nous. Puisque qu'est-ce qu'il va nous donner s'il n'a pas ça en lui? Au cœur du monde, il y a relation. Pourquoi? Tout simplement, le désir et le plaisir du Père se manifestent. Et Dieu veut nous faire entrer dans ces relations-là qu'il y a en lui-même. Et il veut nous permettre de le connaître et de vivre ces relations, cette relation et en Christ et par l'Esprit. On pourrait dire ça, c'est la vie éternelle. Le fait de vivre relation avec Dieu, comme le dit si bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dernier point, et ça, c'est surprenant, sans Trinité, il n'y a pas de salut. Parce que Jésus ne serait qu'un être créé et n'aurait alors pas pu être le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il n'aurait pas pu porter nos péchés et nous serions dans l'impossibilité d'être pardonnés pour avoir une relation rétablie avec Dieu et la vie éternelle. Sans Trinité, la vie éternelle avec Dieu s'appuie sur les mérites d'un être créé et non sur Dieu à qui on devrait donner toute la gloire. Si Jésus est juste un être créé et qu'il obtiendrait pour nous la vie éternelle, la gloire ne reviendrait plus à Dieu, mais à cette personne. Or, la gloire appartient à Dieu parce que c'est lui seul qui peut porter notre péché et nous en libérer. J'aimerais finir avec une dernière question. Au fond, qu'est-ce que ça change de comprendre ce qu'est la Trinité ? J'espère que vous arrivez à me suivre, je dis beaucoup de choses. Un point, ça change notre louange. Comprendre la Trinité, c'est comprendre que Dieu s'approche de nous pour nous inviter à entrer dans un amour, un culte, une adoration, une communion qui existe déjà en lui. Alors ça nous dépasse. Et ça change notre compréhension de la louange, de l'adoration, même de notre vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à nous dire, si je n'ai pas adoré aujourd'hui Dieu, il n'aura pas eu ce qu'il mérite et il sera dans le besoin. Quand nous louons le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous rentrons en fait dans une louange et une adoration qui existe déjà de toute éternité en Dieu. Et c'est libérateur dans notre vie de foi. Nous ne sommes pas tenus de louer Dieu parce que si nous ne le faisons pas, ça va lui manquer. Nous le louons dans une liberté totale parce qu'il nous a fait cadeau de nous permettre d'entrer dans une louange et dans un amour qui existe déjà en lui depuis toujours. Autre point, ça change notre rapport avec l'autorité. Nos rapports à l'autorité en France sont toujours hiérarchiques, n'est-ce pas ? Il y a un dessus et un dessous, et le dessous. Or, la Bible, dans la Bible, les relations par rapport à leur autorité ne sont pas hiérarchiques, mais elles sont simplement fonctionnelles. Il y a quelqu'un qui a un rôle et quelqu'un d'autre qui a un autre rôle. Les deux sont de même rang, un peu comme on a dans la Trinité. Dieu le Père qui conçoit le plan et qui le dirige, et Dieu le Fils qui l'accomplit, sans pour autant que l'un soit inférieur à l'autre. Une très belle image à cultiver pour ceux qui ont une autorité quelconque. Et quand on parle de chef, pour le mari par exemple, hein, ça prend un autre sens. Chef dans le sens pas que je suis au-dessus, mais dans le sens que j'ai un rôle à jouer. Aimer, comme Christ a aimé l'Église. Autre point et dernier point, ça change notre manière de vivre les relations. Si Dieu est trinitaire et s'il n'y a jamais aucune division dans sa personne, jamais aucun conflit, une harmonie de pensée absolument parfaite. S'il y a cette relation entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il doit y avoir ce type de relation entre nous. En tout cas, on doit le rechercher, on ne sera pas parfait comme lui, en tout cas pas sur Terre encore. Mais le modèle de la Trinité est un modèle pour nous en tant qu'Église. Le modèle de la Trinité est un modèle pour les familles. C'est un modèle pour nous tous. dans toutes nos relations. Nous avons été créés à son image, homme et femme. Si Dieu est notre modèle, on doit le refléter dans toutes nos relations.
Donc, ce n'est pas simplement un Dieu qui dit, dit à l'Église, voilà, vous devez vous aimer, vous devez... Non, ce n'est pas juste une volonté donnée, c'est Dieu lui-même qui est comme ça.
Je suis amour. En moi, il y a relation parfaite et harmonieuse et unité. Si vous ne manifestez pas ça entre vous, vous n'êtes pas du tout en train de refléter qui je suis.
S'il y a relation harmonieuse entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons avoir des relations qui reflètent cette harmonie. Vous êtes d'accord avec cela? Si oui, cela implique pas mal de choses. Il y a plusieurs années, je discutais avec une femme âgée et ce qu'elle m'a dit m'a beaucoup attristé. Elle m'a dit que très tôt, après son mariage, sa relation de couple se réduisait qu'à l'organisation de sa famille. En tout cas, la relation de couple n'était que juste une relation de « on est là que pour organiser ce qu'on vit dans la vie de famille ». Mais il n'y avait plus d'intimité dans la vie de couple. Aujourd'hui, téléphone portable, tablette, ordinateur et bien d'autres choses encore prennent tellement de place dans les foyers que ça tue l'intimité des couples, ça brise des familles. C'est tout bête ce que je suis en train de dire et pourtant ça a vraiment... Enfin, je l'entends non-stop. Question pour ceux qui... Il y a une autre chose que je vois aussi, c'est que de plus en plus de couples cherchent l'indépendance. C'est-à-dire, au lieu de vivre une certaine dépendance l'un envers l'autre, puisque c'est inévitable dans la vie de couple, les deux cherchent une véritable indépendance. Qui fait que l'un veut vivre comme il veut, sans considérer l'autre. Et ça, ça tue la vie de couple. Et ça, j'en entends beaucoup aussi, qui sont sur ce terrain. Question pour ceux qui sont mariés. Avez-vous aujourd'hui une relation intime et profonde avec votre conjoint qui reflète la Trinité, le Dieu trinitaire? Est-ce que cela se voit? Est-ce que vos enfants le voient? Ils peuvent en témoigner. Je m'adresse maintenant à tous. Est-ce que toutes nos relations reflètent le Dieu trinitaire? Si nous ne réglons pas les conflits, si nous n'exerçons pas le pardon, si nous ne savons pas agir avec humilité quand on nous reprend, si nous ne savons pas reconnaître nos torts, si nous aimons les médisances dans l'Église et les répandons, si nous gardons de la haine les uns pour les autres, si nous refusons d'aimer quelqu'un, nous ne reflétons pas du tout le Dieu que nous adorons peut-être tous les dimanches. Ce n'est pas une véritable adoration. Vous entendez un peu la chose fausse là, hein? Quelqu'un qui adore Dieu et qui vit comme cela n'adore pas Dieu. Il adore quelqu'un d'autre, mais pas Dieu. Parce que le Dieu trinitaire nous amène dans des relations harmonieuses, nous pousse à régler les situations et à vivre dans le pardon. Si notre cœur s'est endurci, cela peut révéler certainement des blessures profondes, des souffrances. Mais si nous restons ainsi sans changer, cela montre quelque chose de plus grave. Notre cœur s'est refroidi. Est-ce qu'on fait partie des chrétiens qui vont être vomis de Dieu, comme on le voit dans l'Apocalypse? Et l'Évangile n'a plus d'impact dans notre vie. Dieu n'a plus sa place. Dieu nous invite à accepter, à croire, à vivre, à être dans l'admiration de qui il est dans sa Trinité. Mais il nous invite aussi à nous laisser bouleverser par cela, pour que cela ait un impact véritablement dans notre quotidien, dans nos relations. Je vous invite à méditer sur cela, sur la personne de Dieu, ce Dieu trinitaire, mais aussi à réfléchir à vos relations, qu'elles soient saines et qu'elles reflètent le caractère de Dieu, ce Dieu qui est en fait trinitaire. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et rappelons-nous ceci, toutes les fois où nous parlons de Dieu,
S'il y a bien un mot qui doit être la conclusion, c'est adoration. Adoration. J'espère, en ayant prêché là ce matin, vous avoir amené à l'admiration de Dieu et à l'adoration de ce Dieu qui nous dépasse. Et que, en sortant de là, j'entends, oui, j'ai envie de servir davantage ce Dieu. Telle situation, j'ai envie de la régler parce que je veux que ma vie, que la vie de l'Église reflète le Dieu trinitaire. Je veux être vrai devant ce Dieu qui m'aime et qui est trinitaire. Dieu, tu nous dépasses totalement. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout comprendre de toi. Mais ce que nous pouvons comprendre est suffisant pour nous pousser à la louange, la reconnaissance, l'admiration de ta personne et l'adoration. Nous te demandons ton aide dans notre témoignage, que nous sachions parler de toi avec humilité, douceur, amour. Quand nous parlons de toi à d'autres, nous ne sommes pas là pour combattre, dans le sens de trouver les meilleurs mots, les meilleures phrases, pour ensuite atteindre le cœur des gens. Mais plutôt, nous sommes là pour parler de toi et te laisser agir dans les cœurs. Que nous soyons surtout dans la prière, car seul ton esprit peut toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Dieu notre Père, pardon de ne pas assez te refléter dans toutes nos relations, notre vie de couple, notre relation avec nos enfants, notre relation avec nos parents, notre relation avec nos frères et sœurs, nos relations au travail, nos relations au sein de l'Église. Père, aide-nous à te refléter. Agis en nous. Nous te demandons encore de te révéler à nous. Nous voulons mieux te connaître et te ressembler. Agis en nous pour que nous te reflétions encore plus. Encore un immense merci pour ton amour et ton invitation, pour que nous jouissions de l'amour qui circule en toi de toute éternité. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, nous t'aimons. Amen. Je vous invite à vous lever.